Radio Okapi.
Au sommaire de cette édition, au Nord Kivu, situation toujours tendue dans le Niragongo et ses environs. D'intenses combats sont signalés entre les FRDC et les rebelles de M23. Dans la province du Bas-Ouélé, les prix des produits manufacturés et des produits alimentaires ont augmenté sensiblement sur le marché de la ville de Bouta. On fera le point dans ce journal. Notre invité est Dr Paulin Kaloumé, médecin traitant dans le service de gynécologie obstétrique à l'hôpital général de Kindu. Il parle de la prise en charge des cas de fustile dans son hôpital. Bonjour et bienvenue. Au Nord Kivu, des attaques simultanées des présumés rebelles du M23 signalées depuis tôt ce mercredi dans les territoires de Rutshuru et de Niragongo. C'est notamment à Kibumba, territoire de Niragongo, et autour de Tianzu, Runyoni et Kanombe dans le territoire de Rutshuru. Alors qu'au niveau de Niragongo, ces combats perturbent la circulation sur la nationale numéro 2. Un déplacement des populations est signalé dans le groupement de Gisigari, dans le Rutshuru. Bernard Nyangui nous en dit plus.
C'est autour de 3h du matin que les rebelles ont attaqué les FARDC pour, selon plusieurs sources, tenter de reconquérir les collines de Tianzu et Runyoni dans le groupement de Djomba, mais qui sont encore sous contrôle de l'armée congolaise. Et dans le même territoire, une autre attaque, selon d'autres sources locales qui l'attribuent à des supposés militaires rwandais, a été signalée aux environs de 9h locales dans la localité de Kanombe. C'est à une dizaine de kilomètres du camp de Rumangabo. À Bunagana, une panique consécutive aux détonations est perceptible. Et dans le groupement de Kisigari, les localités de Kanombe et Nyesisi se vident de leurs habitants qui se dirigent vers Rugari, au retour au centre. Au niveau de Kibumba, c'est autour de 6h locales que des affrontements ont repris à Mwaro, près de la nationale numéro 2. Des sources sur place parlent d'une progression des rebelles qui, autour de 10h locales, auraient déjà occupé une partie importante de Kibumba et avanceraient vers Bumba en direction de Goma. Le porte-parole de Sokola 2 n'était pas disponible à nous fournir plus de détails ce matin. D'ores et déjà, la route Goma-Rutshuru est de nouveau coupée au niveau de Kibumba à la suite de ces violents combats. Tous les véhicules en partance pour le Grand Nord sont bloqués vers Kibati. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Toujours dans ce même registre, le Conseil de sécurité de l'ONU, préoccupé par l'occupation des activités des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est dans une déclaration faite à la presse mardi 24 mai 2022 que les membres de cet organe ont exprimé leurs préoccupations. Ils ont en même temps reconnu les efforts des FRDC, y compris avec le soutien de la MONUSCO, pour faire face à la menace posée par ces groupes armés. D'autres détails de cette déclaration avec Honoré Missinga Kalala.
Le message du Conseil de sécurité porte sur la situation en République démocratique du Congo. Dans leur déclaration à la presse, les membres de l'exécutif de l'ONU condamnent fermement l'attaque du M23 contre les positions de la MONUSCO et des FRDC. Une attaque perpétrée le 22 mai 2022 dans la région de Changi au Nord Kivu. Concernant les attaques délibérées visant particulièrement les soldats de l'ONU, le Conseil de sécurité appelle les autorités de la RDC à mener rapidement des enquêtes en vue de traduire en justice leurs auteurs. Dans cette même déclaration, les 15 du Conseil de sécurité expriment également leurs préoccupations face à la situation humanitaire actuelle dans l'est de la RDC. Situation marquée par une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin de protection et d'assistance humanitaire. Toutefois, les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l'engagement des signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à faire face à la menace que représentent tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo.
En Ituri, les notables des différentes communautés lancent un appel aux groupes armés réfractaires au processus de Nairobi au Kenya à saisir cette opportunité pour la restauration de la paix dans cette province. Il déplore les violences qui continuent d'être perpétrées, notamment par les différentes factions de la CODECO et le groupe d'autodéfense Zaïre dans le territoire de Djougou. Ces notables demandent aux leaders de ces milices de revenir à la raison. Isaac Raymond.
Les leaders communautaires se disent préoccupés par les violences commises par les groupes armés, notamment la CODECO et Zaïre, dans les territoires de Djougou. Ils les exhortent à saisir cette occasion offerte par les chefs de l'État congolais pour exprimer leurs revendications plutôt que de poursuivre la guerre qui ne profite pas au peuple de l'Ituri. Vital Tungulo de la communauté Nyalikilo.
Le territoire de Djougou a vraiment besoin de la paix pour son émergence. Nous exhortons vraiment tous ces leaders armés de saisir cette main tendue du chef de l'État. En tout cas, on ne sait pas qui gagnera quelque chose dans tout ce que nous sommes en train de vivre.
Le vice-président de l'ORI indique que les leaders de la communauté Lendu s'évertuent à persuader les miliciens de la Côte d'Éco à participer aux consultations de Nairobi au Kenya. Il s'est dit confiant pour la suite de ces processus. Jean-Marie Ndjaza.
Je suis en train de conduire une délégation composée de 14 personnes que nous avons disséminées. Nous sentons que les gens sont dans le besoin de voir la guerre se terminer. Et donc nous les encourageons à pouvoir joindre l'État à ceux-là qui ont déjà accepté de participer.
De son côté, le porte-parole adjoint de l'IRDPC Codeco affirme que leurs factions sont favorables aux consultations de Nairobi. Il ajoute qu'ils étaient prêts à rejoindre Bounia la semaine dernière, mais ajoute-t-il, je cite, nous avons été attaqués par la milice Zaïre. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Changeons de registre. Début hier mardi, devant le tribunal militaire de Beni, des plaidoiries dans le procès des présumés meurtriers de deux imams et d'un fidèle musulman l'année dernière dans cette ville du Nord Kivu. 16 prévenus, présumés combattants EDF et leurs collaborateurs sont devant la barre. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat et terrorisme. Le ministère public a requis des peines allant d'une année à la prison à perpétuité. Martial Papi Moukeba.
L'avocat de la communauté islamique du Congo, qui s'est porté partie civile dans ces procès, a d'abord rejeté les déclarations de l'un des prévenus qui avait accusé les deux imams d'avoir réceptionné 50 000 dollars américains des mains des ADF pour financer des campagnes de conversion des jeunes musulmans à l'idéologie des ADF. Dans sa plaidoirie, il a sollicité la condamnation de tous les prévenus solidairement avec l'État congolais et a alloué à la Comico la somme d'1 million de dollars américains au titre des dommages et intérêts, évoquant les préjudices subis du fait du meurtre du représentant régional de cette organisation. En réaction, le ministère public a demandé au tribunal de désolidariser l'État congolais dans cette cause et de déclarer cette demande de la Comico non fondée. Après avoir expliqué ce qui pour lui est le rôle joué par chaque prévenu dans la préparation et l'exécution de ces meurtres, le ministère public a demandé au tribunal de condamner tous les prévenus pour participation à un mouvement insurrectionnel. Pour 4 prévenus, il a estimé qu'ils devaient en outre être reconnus coupables de terrorisme et d'assassinat. Il a requis des peines allant d'une année à la prison à perpétuité. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Et puis au sud qui vous, 10 ans de servitude pénale et 10 ans pour terrorisme, verdict rendu hier mardi 25 mai à Calais Centre, à 60 km de Bukavu, à l'issue de l'audience en chambre foraine de la cour militaire du sud Kivu, sur 5 prévenus dont les dossiers prioritaires à Makombo et Bukanga en matière répressive au degré d'appel, et ce pour crime contre l'humanité par meurtre, viol, torture et autres actes inhumains et dégradants. Ces audiences sont organisées avec l'appui de la section d'appui à la justice de la MONUSCO, la BCNUDH, l'ONG Trial et la Fondation Panzi. C'est un reportage de Rachel Kiese Mbangu.
5 prévenus étaient poursuivis dans 2 affaires judiciaires. Le premier concernait les prévenus Chabira Chirabissa et Dieme Mounono. Le second dossier concernait les prévenus Bitel et Léonard, Asifioué, Jean des Dieux et Doudoundoto. Tous des miliciens poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, torture et pillage. Faits commis entre 2016 et 2018. La cour militaire du Sud Kivu a condamné les 2 premiers prévenus à 10 ans et 8 ans de servitude pénale principale pour crimes contre l'humanité. Les 3 autres prévenus sont tous condamnés à 10 ans pour terrorisme. Ils ont été condamnés en outre au paiement des frais d'instance et autres dommages intérêts. Pour le lieutenant-colonel magistrat David Kazadi Nzengu, substitut de l'auditeur militaire supérieur du Sud Kivu, c'est un signal fort et un message que la justice militaire adresse à tous les seigneurs des guerres dissimulés à travers le pays et qui continuent à perpétrer des exactions sur la paisible population civile, que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes criminelle. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, trouble hier mardi dans la localité de Bashingala, secteur de Movokachi, à plus ou moins 19 km du chef-lieu du territoire de Miabi. Les conflits de pouvoirs coutumiers et fonciers seraient à la base de ce désordre, affirment les sources de la société civile. Plusieurs coups de feu ont été entendus hier. Suite à cela, les sources sur place affirment que quelques habitants ont fui leur localité pour se réfugier en brousse. L'administrateur du territoire dit dépêcher une équipe sur place pour s'enquérir de la situation. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs coups de feu ont été entendus dans la localité de Bashingala, affirment les sources de la société civile, qui parlent du rebondissement d'un vieux conflit des pouvoirs coutumiers entre le chef qui a été destitué au mois de janvier dernier et celui en exercice. Denis Mukendi, chef en exercice, affirme que les troubles ont été créés par la milice de son prédécesseur qui est actuellement gardée dans la ferme communautaire de Mulonza, qui est relayée avec la famille régnante. Ces hommes armés ont tiré des coups de feu pendant beaucoup d'heures dans la localité, faisant ainsi fuir quelques familles dans la brousse. La même source précise que ce dernier ont érigé plusieurs barrières pour empêcher la circulation des personnes ainsi que l'exploitation de diamants dans les mines de Kakumbi et de Chibombo. Selon lui, cette milice aurait ravi une motopompe à un groupe de creuseurs. Ces allégations sont rejetées par le chef Mutapa Bwanga qui a été destitué au mois de janvier de cette année. Selon lui, les coups de feu qui ont fait fuir les habitants ont été tirés par les éléments de la police que le chef en exercice a réquisitionné pour déloger sa famille dans la ferme communautaire de Mulonza qu'il veut à tout prix récupérer illégalement. L'administrateur du territoire de Miabi dit avoir dépêché une équipe sur place pour s'enquérir de la situation. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Bawele, les prix des produits manufacturés et des produits alimentaires ont augmenté sensiblement sur le marché de la ville de Bouta. La Fédération des entreprises du Congo attribue cet état de choses à la dégradation des routes. Certaines personnes y voient l'ombre d'une démographie galopante dans cette entité. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les habitants de la ville de Bouta sont confrontés ces derniers temps à une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires ainsi que ceux de première nécessité. D'après la société civile locale, la plupart ont pratiquement doublé. Par exemple, un gobelet du sel est passé de 800 à 1600 francs congolais. Un kilo d'oignon revient actuellement à 7000 francs au lieu de 3000 francs antérieurement. L'huile de palme et du savon ne sont pas demeurés en reste. Une bouteille d'huile est passée de 800 à 2500 francs, voire 3000 francs congolais, alors qu'un gobelet de riz blanc se vend à 1600 au lieu de 500 francs congolais. Une barre de savon Tembo est passée de 800 à 2500 francs, tandis qu'un carton de boîte de tomates revient à 60 000 francs au lieu de 35 000 francs congolais. Paul Ebouda, président de la FEC Bouta, attribue cette flambée de prix à la dégradation très avancée des axes routiers Bouta-Kisangani et Bouta-Aketi. Pour que les prix baissent sur le marché, les opérateurs économiques de Bouta demande notamment au gouvernement de s'impliquer pour la réhabilitation de la RN4, le tronçon reliant Bouta à Kisangani et à Aketi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Des femmes de peuples autochtones et personnes vivant avec handicap physique échangent depuis hier sur leur représentation paritaire à travers les réformes électorales en cours. L'atelier d'échange vise à arrêter des stratégies et formuler un plaidoyer avec l'assistance de l'ONU Femmes et de l'IFES sur la promotion du genre et d'autres catégories des personnes vulnérables dont la loi électorale qui sera votée au Parlement. Joséphine Galoula, membre de la plénière de la CENI, explique le sens de cet atelier au micro de Jeff Ngoy.
Ici, nous voulons échanger avec les parties prenantes, notamment les femmes, les hommes qui font la promotion du genre en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale. Et là, nous allons, à la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre plaidoyer dans l'accompagnement de la loi électorale soit prise en compte, étant donné que les juristes de la CENI ont eu à inclure dans leurs documents des plaidoyers, des propositions de réforme, la question de la prise en compte du genre pour que cela soit figuré dans l'article 13 alinéa 3 de la loi électorale. Et là, ces échanges vont nous aider à cœur ouvert pour matérialiser notre approche ainsi que notre promesse par rapport à la question du genre et inclusion.
En bref, à Kinshasa, le recouvrement forcé de la vignette est suspendu jusqu'au 15 juin prochain. Le directeur général de la DGRK, la direction des recettes de Kinshasa, affirme que c'est pour permettre aux propriétaires des véhicules non en règle de s'acquitter de ce devoir. C'est aussi pour réduire les bouchons aggravés par ces contrôles à travers la ville. Pour rappel, ces embouteillages ont notamment été à la base des accrochages hier mardi entre des conducteurs des véhicules de transport en commun, des badauds et des agents commis au contrôle dans la commune d'Ungaba.
Actualité internationale.
Les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés dans des centaines de mètres sous terre depuis 39 jours dans une mine de zinc de Burkina Faso ont été retrouvés ce mercredi, a annoncé le gouverneur burkinabé. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a indiqué que les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 4 autres mineurs. Et puis la Corée du Nord aura attendu le départ de Joe Biden de la région pour reprendre ses essais de missiles balistiques, alors que ce dernier a profité de son séjour pour adopter une ligne ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. Pyongyang démontre son intention de poursuivre avec son rythme effréné d'essais de missiles depuis le début de l'année.
L'invité.
Notre invité est docteur Paulin Caloumé, médecin traitant dans le service de gynécologie obstétrique, cette cellule de futile à l'hôpital général de référence de Kindu, province du Maniema. Après une formation financée par UNFPA à Pandi, cette équipe de 5 personnes assure localement la réparation des fistules obstétriques simples à l'hôpital général de référence de Kindu. Toute l'équipe a besoin d'une formation continue pour arriver à réparer les cas compliqués. Docteur Paulin Caloumé s'entretient avec Florence Kisalunga.
Bonjour docteur Paulin Caloumé.
Bonjour madame.
Il y a un bon moment que l'hôpital général de référence de Kindu, avec l'appui de UNFPA, prend en charge la réparation des femmes fistuleuses. Quel est l'état de lieu séjour de cette maladie en province?
Oui, merci madame. Ça fait longtemps que l'hôpital général est en train d'organiser ses activités, mais au départ c'était les activités à masse. Il était question pour l'hôpital général d'appeler l'équipe d'experts venant de l'extérieur pour venir réparer en mode campagne. Mais à un certain moment, les partenaires de l'UNFPA s'est dit, au lieu de continuer à appeler l'équipe de réparation provenant d'une autre province, c'est mieux d'organiser une formation ou d'envoyer une équipe locale de l'hôpital général qui pourra désormais faire ses activités en mode routine. C'est comme ça que, à partir de l'année 2019, il y avait une équipe qui était envoyé à Pans, constitué de 2 médecins et 2 infirmiers ainsi que d'une anesthésiste. Donc, à partir de 2019, l'équipe était déjà complète pour commencer à réparer localement sans aide des experts venant de l'extérieur.
De 2018, docteur, peut-on avoir quelques chiffres concrets de malades que vous avez déjà réparés localement?
Oui, depuis qu'on a commencé à réaliser ces activités en mode routine, où on a réparé en 2020 20 cas, en 2021 5 cas et la prévision de cette année en cours est de 60 cas.
Et comment est la politique de prise en charge de ces malades?
La politique de la prise en charge de ces malades, ce qui est vrai, ce sont les malades qui sont un peu frustrés, stigmatisés, qui ont peur de consulter et ils ont honte de consulter les centres de traitement. C'est comme ça que pour les avoir, il faut commencer d'abord par une sensibilisation et leur montrer que c'est une maladie qui est curable, une maladie qui peut être soignée normalement et leur donner l'espoir que la maladie peut aussi se réparer sans rien donner. Nous leur assurons que non, la pathologie est là et nous sommes en mesure de réparer et facilement elles peuvent retrouver leur santé.
Qu'en est-il des ressources humaines? Pensez-vous que l'équipe de 5 personnes suffit ou vous avez besoin d'ajout? Aussi, ajout en termes de matériel pour une bonne prise en charge des malades?
Oui, depuis qu'on est là, nous faisons l'essentiel, mais cela ne va pas nous empêcher d'avoir une autre main plus forte que nous. Parce que notre formation s'est arrêtée à Bukavu, juste à la réparation des fistules obstétricales simples. Cela ne va pas nous empêcher de continuer avec notre formation pour commencer à faire même des cas très compliqués. Ce que nous faisons, bien sûr, c'est mieux déjà parce que nous faisons l'essentiel. Nous sauvons nos malades, nous réparons les fistules simples, mais pour les fistules compliquées, on doit quand même renforcer notre formation. Pour ce qui concerne les matériels, l'INFPA nous avait déjà approvisionné l'essentiel en matériel. Ils peuvent toutefois ajouter, entre autres, les lits de réparation des fistules que l'hôpital tout entier en manque.
Vous avez toujours dit qu'il y a beaucoup de cas de fistules au Maniema, mais qui sont à l'intérieur de la province. Comment comptez-vous faire pour récupérer toutes ces femmes?
Pour parvenir à voir les patientes à opérer ou les patientes souffrantes des fistules, il faut aller les chercher avec des sensibilisations. Dans notre plaidoyer, on s'était dit, est-ce qu'il sera possible d'organiser des cliniques mobiles? D'ailleurs, c'est ça notre prévision pour cette année. On pensait proposer ça aux partenaires s'il y aura moyen d'aller commencer à chercher ces femmes qui sont là à l'intérieur isolées, qui ont difficile à nous atteindre, qui ont des difficultés pour arriver au lieu des centres de traitement. Maintenant, comme moyen pour nous de les atteindre, c'est mieux d'organiser des cliniques mobiles.
Pour terminer, docteur, quelques conseils en titre de prévention.
Dans le cas d'espèce, comme nous parlons de la fistule obstétricale, c'est en général une maladie qui est due d'abord à une mauvaise obstétrique. Ça veut dire que pour prévenir ou pour lutter contre cette pathologie, les femmes doivent subir une bonne obstétrique. Ça veut dire faire les consultations prénatales. À part la bonne consultation prénatale, les femmes doivent aussi apprendre à arriver à temps à l'hôpital et aussi au personnel soignant savoir diagnostiquer s'il y a des dystocies afin d'éviter la survenue d'une fistule obstétricale.
Docteur Paulin Kaloumé, merci.
Merci, madame.
Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.